couverture. Une émission proposée et animée par Christine Baron.
Fini les vacances, c'est la rentrée. Chacun reprend le chemin de ses activités et la quatrième de couverture reprend le chemin des studios de Radio Albatros pour nos rendez-vous mensuels. C'est la même chose d'ailleurs pour sa petite sœur, la quatrième, l'hebdo, que vous retrouverez chaque semaine en direct ou évidemment en podcast sur le site de la radio. Alors, pour cette 22e édition, de quoi allons-nous parler pour ouvrir joyeusement la nouvelle saison? Qu'est-ce qui va nous emballer? Emballer, voilà un verbe de circonstance, parce que du 18 septembre au 3 octobre, l'Arc de Triomphe sera emballé par l'équipe de Christo. Elle poursuit son œuvre depuis son décès l'an dernier. À grand renfort de tissu argent bleuté, 25 000 mètres, et de cordes rouges, 3 000 mètres, le monument emblématique rejoindra les œuvres précédentes de l'artiste qui avait déjà emballé le Pont-Neuf à Paris en 1985. Emballer donc, qu'est-ce qui va nous emballer ? Nous donner envie, éveiller notre gourmandise. Qu'allons-nous croquer cette année, déguster, dévorer même comme on dévore un bon livre? Et c'est tout à fait l'esprit de cette émission, donner envie en quelques phrases, comme la quatrième de couverture d'un roman, d'ouvrir un livre, d'écouter une chanson, d'aller au musée, au concert, au théâtre. Alors, quel est le programme ce mois-ci? On reviendra sur quelques belles surprises de l'été. On ira faire un tour de l'autre côté de l'eau pour en savoir plus sur les 20 ans du festival littéraire Rencontre d'été en Normandie qui a promené tout l'été ses 110 rendez-vous culturels dans une cinquantaine de lieux. On retrouvera Flaubert dans le cloître de l'abbaye de Montivilliers avec son roman Bouvard et Pécuchet. Et enfin, on notera quelques rendez-vous en septembre pour satisfaire notre curiosité et notre appétit de culture. Alors, à table, la quatrième de couverture de septembre est servie. On avait beaucoup parlé de nature dans notre émission d'été, de la nature qui s'installait en ville. Eh bien, elle est même venue jusque dans nos assiettes. Nature et gourmandise, pourquoi pas? Et quelle nature avons-nous dégusté cet été? Eh bien, des fleurs, tout simplement. L'engouement pour les fleurs comestibles a inspiré de jeunes cultivateurs et on a pu cet été découvrir à Couville-sur-Mer le champ des comestibles de Gladys Boudéen au cours de visites guidées. Jumiège a proposé des visites dans le même esprit, une découverte des plantes sauvages cette fois et leur utilisation en cuisine guidée par le chef Christophe Mauduit. Une journée de cueillette et de dégustation à l'auberge des ruines, la visite de l'abbaye et pour les plus courageux, une randonnée pédestre de 8 km en plus. Et si l'aventure vous tente, vous pourrez encore vous initier au pouvoir culinaire des plantes le dernier samedi de septembre. La nature et la gourmandise font donc bon ménage. Après les fleurs comestibles, les plantes sauvages accommodées par un chef cuistot, c'est un sociétaire de la Comédie-Française, Jérôme Pouly, qui a pris les chemins de traverse cet été avec sa cuisine des auteurs pour faire saliver les spectateurs. Un seul en scène, dans sa caravane transformée en mini-scène de théâtre, qu'il a trimballée en Ariège, dans le Lot, les Landes, l'Aude, en offrant une sorte de festin en parole, en plein air, dans les belles campagnes de France. Une mise en scène savoureuse qui mêlait les mots et les mets à travers un florilège de textes sur la gourmandise et les plaisirs de la table, et les auteurs ne manquaient pas, ne serait-ce que Colette ou Georges Sand, qui ont si bien évoqué le plaisir de manger ensemble, plus encore que l'art d'être gourmand. Il est vrai que l'art d'être gourmand en pousse beaucoup vers des excès ridicules. Alors que Jérôme Pouly, en bel épicurien, a réussi à mêler les mots et les mets avec gourmandise, on trouve parfois des textes qui frisent le ridicule. On a tous en tête des exemples de phrases ampoulées de certains commentateurs culinaires. La chair d'un poisson cru peut atteindre de dimensions virginales, transcendées par un jus d'herbe sauvage à la fraîcheur souterraine. Bon, mais c'est vrai qu'il faut avouer que c'est difficile de trouver les mots justes en cuisine. Voilà qui a inspiré un refrain plein d'esprit à Camille. « Je ne mâche pas mes mots », chante-t-elle dans sa cuisine.
« Je ne mâche pas mes mots, je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade aux pommes préparée à cappella. » Clarifier ma voix, l'aspartame à sa mémère n'édulcorera pas la colère de voir sous la princesse un petit poids. OGMO, je ne mâche pas mes mots, je ne mâche pas mes mots. Si parfois je me délecte avant de dévorer ma proie, que je lâche un peu de
En jouant sur les mots, Camille a habilement rappelé le double sens du mot « piano », lui qui trône aussi bien dans la cuisine des grands restaurants que sur les scènes musicales. Et à propos de musique, les mélomanes ont été gâtés cet été. Il y en a eu pour tous les goûts, tous les publics. Festival Offenbach à Étretat, musique du monde avec Mosaïque au Havre, jazz sous les pommiers à Coutances, musique pop et électro avec le tout récent Festival Béton qui fête à sa manière l'architecture de Perret, au Havre, et musique classique avec les musicales de Normandie à Varengeville-sur-Mer qui avait invité cette année le fondateur des Arts Florissants, William Christie. S'il est difficile de nommer tous les festivals de l'été, on ne peut résister au plaisir d'évoquer l'œuvre si originale de William Christie. Lui qui a voué sa vie et son talent à la valorisation de la musique baroque portée par de jeunes artistes depuis plus de 40 ans. Une musique qui était un peu oubliée à l'époque et à laquelle il a redonné tout son éclat et toute sa fraîcheur. Et tous ceux qui se sont arrêtés un jour en Vendée le savent. Il a redonné son lustre à cette musique, mais en redonnant aussi vit à ses jardins, au jardin de sa propriété de Tiré, où il accueille chaque année, à la fin de l'été, tous ceux qui veulent goûter au mélange subtil de la musique baroque et de l'art des jardins. C'est un festival unique en Europe. Monteverdi, Purcell, Vivaldi, Bach, Couperin étaient à l'honneur cette année.
This is the fifth Festival dans les Jardins de William Christie, the Garden Festival of William Christie. We're in the courtyard of a new house, a new old house, because the house is probably 4 centuries or 5 centuries old. But we have now a new garden, and we have, just next to me, a new rehearsal hall. We're renovating an old quarter of this small town, which was pretty much abandoned and forgotten, and we're making it live again through music, which is a very nice thing to say.
This C'est un festival tout à fait différent que d'autres festivals. Et extrêmement chargé de plein de choses, du soleil, des fleurs, le miroir d'eau, des concerts, les promenades. C'est une opportunité pour tout le monde. Pour les enfants, pour les gens qui entendent la musique pour la première fois, ou même pour les mélomanes. Par exemple, de promenade musicale, petit concert qui dure 15 minutes et qui prend place dans les différents endroits dans le jardin. Les musiciens se déplacent au même temps que le public. Et donc le public rencontre les musiciens sur la route, soit en arrivant, soit en rentrant.
Qui mieux que William Christie lui-même et Paul Agnew, le directeur du festival, pouvait si bien résumer l'esprit de ces rencontres musicales. Enfin, un autre festival a offert tout l'été des rendez-vous remarquables avec les rencontres d'été en Normandie, qui ont associé une fois de plus théâtre, musique, lecture, dans un programme toujours très ambitieux. Un programme qui a mis le bicentenaire de la naissance de Flaubert au cœur de sa programmation, avec 30 événements et créations célébrant la liberté d'esprit d'un écrivain hors norme. 110 rendez-vous dans une cinquantaine de lieux, voilà qui a attisé notre curiosité. Et on a voulu en savoir plus, alors on a rencontré Christine Urvoas, qui a participé à l'élaboration de ce programme. Donc ce fameux festival avec Christine Urvoas, donc on se demande qu'est-ce qui fait la spécificité de ce festival, son identité, voilà.
Donc c'est un festival qui a 20 ans, donc qui a un âge mûr, on peut le dire comme cela. Donc il est né de la volonté de deux personnes, donc Philippe Muller et Vincent Vernilla, aidés par Arlette Adam Biro, qui était l'épouse d'Albert Adam Biro, très grand poète français. Et donc ce festival est né à Houlgate. Et ensuite, il a essaimé dans toute la Normandie, Basse-Normandie en priorité, pour arriver, il y a quelques années, à passer le pont de Normandie et arriver au Havre, au musée André Malraux. Et ensuite, pour cette édition, il est arrivé à Montivilliers et à Gonfreville-l'Orcher.
Oui, c'est justement, on va pouvoir entendre la fabuleuse lecture Bouvard et Pécuchet. Voilà, c'est une très bonne introduction à la suite. Et donc, l'identité de ce festival, qu'est-ce que vous pourriez en dire ?
Alors, l'identité de ce festival, c'est surtout donc proposer des textes d'écrivains d'hier et d'aujourd'hui, avec une exigence au niveau des lectures qui sont proposées par des comédiens à la fois du français et des comédiens de compagnie ainsi que de la compagnie du Grain de Sable de Philippe et Muller et Vincent Vernilla. Et également de proposer des concerts lectures, également des balades littéraires, mais des petites formes en fait. Et donc le caractère de ce festival, c'est surtout l'exigence et de toucher tous les publics, des enfants, des adultes. C'est le parti pris et que le maximum de manifestations soient gratuites pour le public.
C'est vrai, quand vous parlez des invités prestigieux, quand on voit la liste chaque année, c'est impressionnant. Hein. Cette année, par exemple.
Oui, cette année, nous avons eu la chance d'écouter Didier Sandre, Denis Podalydès du français, Fanny Cottençon. Je pense également à François Martouret. Nous pouvons aussi citer
des écrivains, Serge Joncourt,
des écrivains comme aussi Christine Montalbetti, comme Célia Lévy, pour des jeunes écrivains qui sont jeunes par l'âge. pas par la maturité de l'écriture. Nous pouvons aussi citer aussi des écrivains, éditeurs anciens comme André Versailles aussi, qui viennent de Belgique, parce qu'il y a un pan de... Ça, c'est l'originalité aussi du festival, c'est qu'il y a un pan très important de Belges qui viennent nous rendre visite pendant ce festival. Il y a ce pont entre la France et la Belgique, avec donc le centre Wallonie-Bruxelles, parce qu'il faut dire que Philippe Muller est d'origine belge.
Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et vous avez une idée déjà du prochain, ou c'est trop tôt là? On vient de fermer tout là.
C'est un peu prématuré, parce que là, c'est l'heure des bilans. Hein, parce qu'il faut donner les bilans à toutes les communes qui ont soutenu, toutes les tutelles, hein, la région, le département, le ministère de la Culture et les différents partenaires financiers.
D'accord, donc on reviendra, on aura le plaisir de passer de l'autre côté de l'eau pour venir vous retrouver. Merci Christine Urvoas.
On retrouvera Christine Urvoas dans son jardin, dans la quatrième hebdo de la semaine 37, pour en savoir plus sur particulièrement les recettes du succès de ces lectures littéraires. Comment construit-on un spectacle autour d'un choix de texte? Comment élabore-t-on une promenade littéraire dans les pas de Flaubert à Trouville, par exemple? Alors justement, Flaubert, on en parlait tout à l'heure, Flaubert nous attendait à Montivilliers cet été, l'une des rares escales de ce festival en Seine-Maritime. Mais quelle escale ! La bibliothèque avait transformé le cloître de l'abbaye de Montivilliers en petite salle de spectacle pour la lecture musicale de Bouvard et Pécuchet. Un texte savoureux, interprété par Philippe Muller et Vincent Vermilla, accompagné à l'accordéon par Christian Anger. Et comme on était là, on a ouvert notre micro pour notre parenthèse littéraire.
Le plus grand a le chapeau en arrière, le gilet déboutonné, la cravate à la main.
Le plus petit baisse la tête sous une casquette à visière pointue.
Ils s'asseyent
à la même minute
sur le même banc.
Ils posent leur coiffure pour s'essuyer le front. Dans le chapeau, il est écrit « Bouvard ».
Et Pécuchet dans la casquette.
Oh, tiens! Nous avons eu la même idée, celle d'inscrire nos noms dans nos couvre-chefs.
Mon Dieu, oui, on pourrait le prendre, le mien, à mon bureau.
C'est comme moi, je suis employé. Ils se regardent en silence. Ils se plaisent au premier coup d'œil.
Ah, comment serait bien la campagne?
Mais la banlieue est assommante, avec le tapage des guinguettes.
C'est pourtant vrai. Mais je me sens fatigué de la capitale.
Ah ben, c'est comme moi. Silence.
C'est étonnant comme on a encore plus chaud dans les rues que chez soi. Ils regardent passer les gens. À leur regard, on devine que passent des femmes élégantes.
Ah, les femmes! Quelle engeance, hein? Elles sont frivoles, acariâtres, têtues.
Avec tout ça, elles sont souvent meilleures que les hommes.
Oh, d'autres fois, elles sont pires. Enfin, bref, il vaut mieux vivre sans elles. Je suis resté célibataire.
Moi, je suis veuf et sans enfant.
C'est peut-être un bonheur pour vous.
Bouf! La solitude à la longue, c'est bien triste.
Oh, passe un ecclésiastique.
Vous avez vu? Encore un ecclésiastique. J'exècre les jésuites.
En fait, ce n'est pas que je veuille les absoudre, mais la religion a quand même du bon.
7 heures sonne. Il se lève, se serre la main, semble hésiter. Ma foi, si nous dînions ensemble...
Oh ben, hein? Je n'osais pas vous proposer.
Et Flaubert poursuit. Pécuchet se laissa conduire en face de l'hôtel de ville dans un petit restaurant où l'on serait bien. Et Bouvard commanda le menu. Bon appétit, messieurs. Voilà nos héros partis bras-dessus au restaurant. On les aurait bien suivis par curiosité. Qu'ont-ils bien pu manger ensemble ? Quels étaient les plats en vogue en 1872, quand Flaubert commença à écrire ce roman inachevé, où il voulait exhaler sa colère ? Je vomirais sur mes contemporains le dégoût qu'ils m'inspirent. Dussé-je m'en casser la poitrine ? Ce sera large et violent, écrivait-il à son amie, Madame Roger Desgenettes. Oulala, quelle hargne ! Vomir, rien que ça ! Maupassant, son jeune protégé, fera un éloge posthume de Bouvard et Pécuchet dans un très bel article paru dans Le Gaulois le 6 avril 1881, un an après la mort de l'écrivain. C'est son œuvre la plus profonde, qu'il a méditée la moitié de sa vie. Flaubert prenait ensemble un lot d'idées de même nature et, comme un chimiste, préparait un élixir, les fondait, les mêlait, les simplifiait, pour créer des formules contenant en 50 mots un système entier de philosophie. Et Maupassant conclut par une image magnifique. Bouvard et Pécuchet, ce sont deux Sisyphes modernes et bourgeois qui tentent sans cesse l'escalade de cette montagne de la science en poussant devant eux cette pierre de la compréhension qui sans cesse roule et retombe. Mais eux, à la fin, a le temps, découragé, s'arrête et, tournant le dos à la montagne, se font un siège de leur rocher. Quelle analyse fulgurante ! Et c'est un vrai plaisir de rapprocher ces deux géants de la littérature pour cet hommage vibrant, surtout cette année où on célèbre le bicentenaire de Flaubert et jusqu'en 2022 en plus. Alors, c'est le moment de choisir quelques rendez-vous culturels pour inaugurer notre rentrée de septembre. De quoi sera faite cette rentrée ? Qu'est-ce qui va nous emballer en septembre ? Eh bien, on va sortir l'agenda de la 4e de couverture. Alors, que va-t-on choisir en septembre ? Les propositions fusent de toutes parts. On a beaucoup parlé de gourmandise aujourd'hui et de Flaubert. On pourra donc profiter encore en septembre et jusqu'à l'année prochaine de la table de Flaubert. Le département de Seine-Maritime a initié la création de plats ou de menus Flaubert avec des restaurateurs normands. C'est le dispositif « À table avec Flaubert » dont le site vous fournira tous les détails qui guideront votre gourmandise de table en table. À moins que vous ne préfériez vous plonger dans la promenade gourmande proposée par Valérie Duclos dans son livre « À la table de Flaubert » entre citations littéraires et recettes de cuisine. C'est que la gastronomie et la littérature font bon ménage, et particulièrement chez Flaubert, quand il entreprend la rédaction de Bouffard et Pécuchet qu'on avait laissé au restaurant tout à l'heure, un cuisinier-écrivain révolutionne la gastronomie française. C'est Auguste Escoffier. Amoureux des mets et des mots, lui aussi, il défend la dimension artistique du métier. Je cherchais des consonances douces et agréables à l'oreille. Un menu bien composé doit être évocateur, ce qui ajoute au désir de savourer un repas savamment préparé et présenté, écrivait-il dans ses souvenirs culinaires. Et on n'oublie pas que c'est lui qui inventa la pêche Melba et les crêpes Suzette pour les gourmands. Une fois rassasiés, on pourra aller faire un tour sur les pâtes Flaubert. À Harfleur, des expositions, des spectacles vous attendent en septembre. et une conférence au joli titre, La plus belle pour aller danser, a ouvert le programme consacré à Flaubert, l'œil du 19e siècle, que l'on pourra prolonger à la Maison Marot à Rouen, par exemple, pour une approche plus contemporaine du personnage d'Emma Bovary. En septembre, vous serez peut-être tenté de rejoindre les cinéphiles qui se régaleront du superbe programme du Festival du film américain à Deauville, un programme ambitieux qui attire cette année encore des grands noms du cinéma. On reviendra sur le palmarès qui sera dévoilé le 12 septembre dans la quatrième d'octobre. Et le directeur du festival, Bruno Bard, était fier et heureux de dévoiler fin août la liste des 13 films américains en compétition et d'annoncer les rencontres prévues avec Oliver Stone, Johnny Depp et toutes les sélections qui enrichissent ce festival bien ancré dans la vie culturelle. L'heure de la croisette, fenêtre sur le cinéma français, les dogs de l'oncle Sam, sans oublier la présence évidemment de Claude Lelouch. Bref, la promesse de beaux moments de cinéma pour lui qui revendique toujours l'élitisme pour tous avec ce festival ouvert au public. Enfin, en attendant la prochaine quatrième de couverture d'octobre, on n'oubliera pas les journées du matrimoine et du patrimoine le week-end du 19 septembre. On plongera avec gourmandise dans les programmes de toutes les salles de spectacle, si heureuses de rouvrir enfin leurs portes. On ira manger des crêpes Suzette ou des pêches Melba. On relira quelques livres gourmands, le Festival de Babette de Karen Blixen ou Mangez-moi d'Agnès de Sarthe. Et on ira au cinéma. Bref, on se régalera des jolies choses qui s'offrent à nous. Polo et Pan pour ces jolies choses acidulées et encore toutes ensoleillées des rythmes de l'été qui n'est pas encore terminé. Merci à Joanne, à la technique et rendez-vous le lundi 4 octobre pour la 23e édition.
C'était la quatrième de couverture, une émission proposée et animée par Christine Barou.